deuxième partie, chapitre 3. Si, dans le salon de Madame de Villeparisis, tout autant que dans l'église de Combray, au mariage de Mademoiselle Percepied, j'avais peine à retrouver dans le beau visage, trop humain, de Madame de Guermantes, l'inconnue de son nom, je pensais du moins que, quand elle parlerait, sa causerie, profonde, mystérieuse, aurait une étrangeté de tapisserie médiévale, de vitrail gothique. Mais, pour que je n'eusse pas été déçue par les paroles que j'entendrais prononcer à une personne qui s'appelait Madame de Guermantes, même si je ne l'eusse pas aimée, il n'eût pas suffi que les paroles fussent fines, belles et profondes. Il eût fallu qu'elles reflétassent cette couleur amarante de la dernière syllabe de son nom, cette couleur que je m'étais dès le premier jour étonnée de ne pas trouver dans sa personne et que j'avais fait se réfugier dans sa pensée. Sans doute, j'avais déjà entendu Madame de Villeparisis, Saint-Loup, des gens dont l'intelligence n'avait rien d'extraordinaire, prononçait sans précaution ce nom de Guermantes, simplement comme étant celui d'une personne qui allait venir en visite ou avec qui on devait dîner, en n'ayant pas l'air de sentir, dans ce nom, des aspects de bois jaunissant et tout un mystérieux coin de province. Mais ce devait être une affectation de leur part, comme quand les poètes classiques ne nous avertissent pas des intentions profondes qu'ils ont cependant eues, affectation que moi aussi, je m'efforçais d'imiter en disant sur le ton le plus naturel « la duchesse de Guermantes », comme un nom qui eût ressemblé à d'autres. Du reste, tout le monde assurait que c'était une femme très intelligente, d'une conversation spirituelle, vivant dans une petite coterie des plus intéressantes. Parole qui se faisait complice de mon rêve. Car quand il disait « coterie intelligente »,« conversation spirituelle », ce n'est nullement l'intelligence telle que je la connaissais que j'imaginais, fût-ce celle des plus grands esprits. Ce n'était nullement de gens comme Bergotte que je composais cette coterie. Non, par intelligence, j'entendais une faculté ineffable, dorée, imprégné d'une fraîcheur sylvestre. Même en tenant les propos les plus intelligents, dans le sens où je prenais le mot « intelligent » quand il s'agissait d'un philosophe ou d'un critique, Madame de Guermantes aurait peut-être déçu plus encore mon attente d'une faculté si particulière que si, dans une conversation insignifiante, elle s'était contentée de parler de recettes de cuisine ou de mobilier de château, de citer des noms de voisines ou de parents à elle qui m'eussent évoqué sa vie. Je croyais trouver Bazin ici. Il comptait venir vous voir, dit Madame de Guermantes à sa tante. Je ne l'ai pas vu, ton mari, depuis plusieurs jours, répondit d'un ton susceptible et fâché Madame de Villeparisis. Je ne l'ai pas vu, ou enfin peut-être une fois, depuis cette charmante plaisanterie de se faire annoncer comme la reine de Suède. » Pour sourire, Madame de Guermantes pinça le coin de ses lèvres comme si elle avait mordu sa voilette. « Nous avons dîné avec elle hier chez Blanche Leroy. Vous ne la reconnaîtriez pas. Elle est devenue énorme. Je suis sûre qu'elle est malade. » « Je disais justement à ces messieurs que tu lui trouvais l'air d'une grenouille. » Madame de Guermantes fit entendre une espèce de bruit rauque qui signifiait qu'elle ricanait par acquis de conscience. « Je ne savais pas que j'avais fait cette jolie comparaison. Mais dans ce cas, maintenant, c'est la grenouille qui a réussi à devenir aussi grosse que le bœuf. Ou plutôt, ce n'est pas tout à fait cela, parce que toute sa grosseur s'est amoncelée sur le ventre. C'est plutôt une grenouille dans une position intéressante. » « Je trouve ton image drôle !» dit Madame de Villeparisis, qui était au fond assez fière, pour ses visiteurs, de l'esprit de sa nièce. « Elle est surtout arbitraire !» répondit Madame de Guermantes, en détachant ironiquement cette épithète choisie, comme eût fait Swann, car j'avoue n'avoir jamais vu de grenouille en couche. En tout cas, cette grenouille, qui d'ailleurs ne demande pas de roi, car je ne l'ai jamais vue plus folâtre que depuis la mort de son époux, doit venir dîner à la maison un jour de la semaine prochaine. J'ai dit que je vous préviendrai à tout hasard. » Madame de Villeparisis fit entendre une sorte de grommellement indistinct. « Je sais qu'elle a dîné avant-hier chez Madame de Mecklembourg, » ajouta-t-elle. « Il y avait Hannibal de Bréauté. Il est venu me le raconter. Assez drôlement, je dois dire. » Il y avait à ce dîner quelqu'un de bien plus spirituel encore que Babal, dit Madame de Guermantes, qui, si intime qu'elle fût avec Monsieur de Bréauté Consalvi, tenait à le montrer en l'appelant par ce diminutif. C'est Monsieur Bergotte. Je n'avais pas songé que Bergotte pût être considéré comme spirituel. De plus, il m'apparaissait comme mêlé à l'humanité intelligente, c'est-à-dire infiniment distant de ce royaume mystérieux que j'avais aperçu sous l'étoile de pourpre d'une baignoire et où M. de Bréauté, faisant rire la duchesse, tenait avec elle, dans la langue des dieux, cette chose inimaginable, une conversation entre gens du faubourg Saint-Germain. Je fus navrée de voir l'équilibre se rompre et Bergotte passer par-dessus M. de Bréauté. Mais surtout, je fus désespérée d'avoir évité Bergotte le soir de Phèdre, de ne pas être allée à lui, en entendant Madame de Guermantes dire à Madame de Villeparisis « C'est la seule personne que j'ai envie de connaître !» ajouta la duchesse, en qui on pouvait toujours, comme au moment d'une marée spirituelle, voir le flux d'une curiosité à l'égard des intellectuels célèbres, croiser en retour le reflux du snobisme aristocratique. « Cela me ferait un plaisir !» La présence de Bergotte à côté de moi, présence qu'il m'eût été si facile d'obtenir, mais que j'aurais cru capable de donner une mauvaise idée de moi à Madame de Guermantes, eut sans doute eu, au contraire, pour résultat, qu'elle m'eût fait signe de venir dans sa baignoire et m'eût demandé d'amener un jour déjeuner le grand écrivain. Il paraît qu'il n'a pas été très aimable. On l'a présenté à Monsieur de Cobourg et il ne lui a pas dit un mot, ajouta Madame de Guermantes en signalant ce trait curieux comme elle aurait raconté qu'un Chinois se serait mouché avec du papier. Il ne lui a pas dit une fois « Monseigneur », ajouta-t-elle d'un air amusé par ce détail aussi important pour elle que le refus par un protestant, au cours d'une audience du pape, de se mettre à genoux devant sa sainteté. Intéressée par ces particularités de Bergotte, elle n'avait d'ailleurs pas l'air de les trouver blâmables et paraissait plutôt lui en faire un mérite, sans qu'elle sût elle-même exactement de quel genre. Malgré cette façon étrange de comprendre l'originalité de Bergotte, il m'arriva plus tard de ne pas trouver tout à fait négligeable que Madame de Guermantes, au grand étonnement de beaucoup, trouva Bergotte plus spirituel que M. de Bréauté. Ses jugements subversifs, isolés et, malgré tout, justes, sont ainsi portés dans le monde par de rares personnes supérieures aux autres. Et ils y dessinent les premiers linéaments de la hiérarchie des valeurs, telle que l'établira la génération suivante, au lieu de s'en tenir éternellement à l'ancienne. Le comte d'Argencourt, chargé d'affaires de Belgique et petit cousin par alliance de Madame de Villeparisis, entra en boitant, suivi bientôt de deux jeunes gens, le baron de Guermantes et son Altesse le duc de Châtellerault, à qui Madame de Guermantes dit « Bonjour, mon petit Châtellerault », d'un air distrait et sans bouger de son pouf, car elle était une grande amie de la mère du jeune duc, lequel avait, à cause de cela et depuis son enfance, un extrême respect pour elle. Grand, mince, la peau et les cheveux dorés, tout à fait de type Guermantes, ces deux jeunes gens avaient l'air d'une condensation de la lumière printanière et vespérale qui inondait le grand salon. Suivant une habitude qui était à la mode à ce moment-là, ils posèrent leur haut de forme par terre, près d'eux. L'historien de la Fronde pensa qu'ils étaient gênés comme un paysan entrant à la mairie et ne sachant que faire de son chapeau. Croyant devoir venir charitablement en aide à la gaucherie et à la timidité qu'il leur supposait, « Non, non, leur dit-il, ne les posez pas par terre, vous allez les abîmer. » Un regard du baron de Guermantes, en rendant oblique le plan de ses prunelles, y roula tout à coup une couleur d'un bleu cru et tranchant qui glaça le bienveillant historien. « Comment s'appelle ce monsieur ?» me demanda le baron qui venait de m'être présenté par madame de Villeparisis. « Monsieur Pierre, répondis-je à mi-voix. « Pierre de quoi ?»« Pierre, c'est son nom. C'est un historien de grande valeur. » « Oh, vous m'en direz tant. » « Non, c'est une nouvelle habitude qu'ont ces messieurs de poser leur chapeau à terre, » expliqua madame de Villeparisis. « Je suis comme vous, je ne m'y habitue pas. Mais j'aime mieux cela que mon neveu Robert qui laisse toujours le sien dans l'antichambre. Je lui dis, quand je le vois entrer ainsi, qu'il a l'air de l'horloger, et je lui demande s'il vient remonter les pendules. « Vous parliez tout à l'heure, madame la marquise, du chapeau de monsieur Mollet. Nous allons bientôt arriver à faire, comme Aristote, un chapitre des chapeaux, » dit l'historien de la Fronde, un peu rassuré par l'intervention de madame de Villeparisis, mais pourtant d'une voix encore si faible que, sauf moi, personne ne l'entendit. « Elle est vraiment étonnante, la petite duchesse, » dit monsieur d'Argencourt en montrant madame de Guermantes, qui causait avec G. Dès qu'il y a un homme en vue dans un salon, il est toujours à côté d'elle. Évidemment, cela ne peut être que le grand pontife qui se trouve là. Cela ne peut pas être tous les jours monsieur de Borelli, Schlumberger ou d'Avenel. Mais alors ce sera monsieur Pierre Loti ou Edmond Rostand. Hier soir, chez les Deauville, où, entre parenthèses, elle était splendide sous son diadème d'émeraude, dans une grande robe rose à queue, elle avait d'un côté d'elle monsieur Deschanel, de l'autre l'ambassadeur d'Allemagne. Elle leur tenait tête sur la Chine. Le gros public, à distance respectueuse et qui n'entendait pas ce qu'il disait, se demandait s'il n'y allait pas y avoir la guerre. Vraiment, on aurait dit une reine qui tenait le cercle. Chacun s'était rapproché de madame de Villeparisis pour la voir peindre. « Ces fleurs sont d'un rose vraiment céleste, » dit le Grandin. « Je veux dire, couleur de ciel rose, car il y a un rose ciel, comme il y a un bleu ciel. » « Mais, » murmura-t-il pour tâcher de n'être entendu que de la marquise, « je crois que je penche encore pour le soyeux, pour l'incarnat vivant de la copie que vous en faites. Ah, vous laissez bien loin derrière vous Pisanello et Van Huysen, leur herbier minutieux est mort. » Un artiste, si modeste qu'il soit, accepte toujours d'être préféré à ses rivaux et tâche seulement de leur rendre justice. Ce qui vous fait cet effet-là, c'est qu'ils peignaient des fleurs de ce temps-là que nous ne connaissons plus, mais ils avaient une bien grande science. Ah ! Des fleurs de ce temps-là, comme c'est ingénieux ! S'écria le Grandin. Vous peignez en effet de belles fleurs de cerisier ou de roses de mai ? Dit l'historien de la Fronde, non sans hésitation quant à la fleur, mais avec de l'assurance dans la voix, car il commençait à oublier l'incident des chapeaux. « Non, ce sont des fleurs de pommier, » dit la duchesse de Guermantes en s'adressant à sa tante. « Ah, je vois que tu es une bonne campagnarde. Comme moi, tu sais distinguer les fleurs. » « Ah oui, c'est vrai. Mais je croyais que la saison des pommiers était déjà passée, » dit au hasard l'historien de la Fronde pour s'excuser. « Mais non, au contraire, ils ne sont pas en fleurs, ils ne le seront pas avant une quinzaine, peut-être 3 semaines, » dit l'archiviste, qui, gérant un peu les propriétés de madame de Villeparisis, était plus au courant des choses de la campagne. Oui, et encore dans les environs de Paris, où ils sont très en avance. En Normandie, par exemple, chez son père, dit-elle en désignant le duc de Châtellerault, qui a de magnifiques pommiers au bord de la mer, comme sur un paravent japonais. Ils ne sont vraiment roses qu'après le 20 mai. Je ne les vois jamais, dit le jeune duc, parce que ça me donne la fièvre des foins. C'était pas tant.
La fièvre des foins? Je n'ai jamais entendu parler de cela, dit l'historien.
C'est la maladie à la mode, dit l'archiviste.
Ça dépend. Cela ne vous donnerait peut-être rien si c'est une année où il y a des pommes. Vous savez le mot du Normand. Pour une année où il y a des pommes, dit monsieur d'Argencourt, qui, n'étant pas tout à fait français, cherchait à se donner l'air parisien.
Tu as raison, répondit à sa nièce madame de Villeparisis. Ce sont des pommiers du Midi. C'est une fleuriste qui m'a envoyé ces branches-là en me demandant de les accepter.
Cela vous étonne, monsieur Valener, dit-elle en se tournant vers l'archiviste, qu'une fleuriste m'envoie des branches de pommiers. Mais j'ai beau être une vieille dame, je connais du monde, j'ai quelques amis. Ajouta-t-elle en souriant par simplicité, crut-on généralement, plutôt, me sembla-t-il, parce qu'elle trouvait du piquant à tirer vanité de l'amitié d'une fleuriste, quand on avait d'aussi grandes relations. Bloch se leva pour venir à son tour admirer les fleurs que peignait madame de Villeparisis.
N'importe, marquise, dit l'historien regagnant sa chaise, quand même reviendrait une de ces révolutions qui ont si souvent ensanglanté l'histoire de France. Et, mon Dieu, par les temps où nous vivons, on ne peut savoir, ajouta-t-il en jetant un regard circulaire et circonspect, comme pour voir s'il ne se trouvait aucun mal-pensant dans le salon, encore qu'il n'en doutât pas. Avec un talent pareil et vos saints langues, vous seriez toujours sûr de vous tirer d'affaire. L'historien de la Fronde goûtait quelque repos, car il avait oublié ses insomnies. Mais il se rappela soudain qu'il n'avait pas dormi depuis 6 jours. Alors, une dure fatigue, née de son esprit, s'empara de ses jambes, lui fit courber les épaules, et son visage désolé pendait, pareil à celui d'un vieillard. Bloch voulut faire un geste pour exprimer son admiration, mais d'un coup de coude, il renversa le vase où était la branche, et toute l'eau se répandit sur le tapis.
Vous avez vraiment des doigts de fée, dit à la marquise l'historien qui, me tournant le dos à ce moment-là, ne s'était pas aperçu de la maladresse de Bloch. Mais celui-ci crut que ces mots s'appliquaient à lui, et pour cacher sous une insolence la honte de sa gaucherie.
Cela ne présente aucune importance, dit-il, car je ne suis pas mouillé.
Madame de Villeparisis sonna, et un valet de pied vint essuyer le tapis et ramasser les morceaux de verre. Elle invita les deux jeunes gens à sa matinée, ainsi que la duchesse de Guermantes, à qui elle recommanda « Pense à dire à Gisèle et à Berthe, les duchesses d'Aubergeon et de Portefin, d'être là un peu avant 2 heures pour m'aider, comme elle aurait dit à des maîtres d'hôtel extra, d'arriver d'avance pour faire les compotiers. » Elle n'avait avec ses parents princiers, pas plus qu'avec M. de Norpois, aucune de ces amabilités qu'elle avait avec l'historien, avec Cottard, avec Bloch, avec moi, et il semblait n'avoir pour elle d'autre intérêt que de les offrir en pâture à notre curiosité. C'est qu'elle savait qu'elle n'avait pas à se gêner avec des gens pour qui elle n'était pas une femme plus ou moins brillante, mais la sœur susceptible et ménagée de leur père ou de leur oncle. Il ne lui eût servi à rien de chercher à briller vis-à-vis d'eux, à qui cela ne pouvait donner le change sur le fort ou le faible de sa situation, et qui, mieux que personne, connaissait son histoire et respectait la race illustre dont elle était issue. Mais surtout, il n'était plus pour elle qu'un résidu mort qui ne fructifierait plus. Ils ne lui feraient pas connaître leurs nouveaux amis, partager leurs plaisirs. Elle ne pouvait obtenir que leur présence ou la possibilité de parler d'eux à sa réception de 5 heures,
comme plus tard dans ses mémoires, dont celle-ci n'était qu'une sorte de répétition, de première lecture à haute voix devant un petit cercle. Et la compagnie que tous ses nobles parents lui servaient à intéresser, à éblouir, à enchaîner, la compagnie des Cottard, des Bloch, des auteurs dramatiques notoires, historiens de la fronde de tout genre, et c'était dans celle-là que, pour Madame de Villeparisis, à défaut de la partie du monde élégant qui n'allait pas chez elle, était le mouvement, la nouveauté, les divertissements et la vie. C'étaient ces gens-là dont elle pouvait tirer des avantages sociaux, qui valait bien qu'elle leur fît rencontrer quelquefois, sans qu'ils la connussent jamais, la duchesse de Guermantes. Des dîners avec des hommes remarquables dont les travaux l'avaient intéressée, un opéra comique ou une pantomime, toute montée que l'auteur faisait représenter chez elle, des loges pour des spectacles curieux. Bloch se leva pour partir. Il avait dit tout haut que l'incident du vase de fleurs renversé n'avait aucune importance, mais ce qu'il disait tout bas était différent, plus différent encore ce qu'il pensait.
« Quand on n'a pas des domestiques assez bien stylés pour savoir placer un vase sans risquer de tremper et même de blesser les visiteurs, on ne se mêle pas d'avoir de ces luxes-là. »
grommelait-il tout bas. Il était de ces gens susceptibles et nerveux qui ne peuvent supporter d'avoir commis une maladresse qu'ils ne s'avouent pourtant pas, pour qui elle gâte toute la journée. Furieux, il se sentait des idées noires, ne voulait plus retourner dans le monde. C'était le moment où un peu de distraction est nécessaire. Heureusement, dans une seconde, Madame de Villeparisis allait le retenir. Soit parce qu'elle connaissait les opinions de ses amis et le flot d'antisémitisme qui commençait à monter, soit par distraction, elle ne l'avait pas présenté aux personnes qui se trouvaient là. Lui, cependant, qui avait peu l'usage du monde, crut qu'en s'en allant, il devait les saluer par savoir-vivre, mais sans amabilité. Il inclina plusieurs fois le front, enfonça son menton barbu dans son faux col, regardant successivement chacun à travers son lorgnon, d'un air froid et mécontent. Mais Madame de Villeparisis l'arrêta. Elle avait encore à lui parler du petit acte qui devait être donné chez elle. Et d'autre part, elle n'aurait pas voulu qu'il partît sans avoir eu la satisfaction de connaître Monsieur de Norpois, qu'elle s'étonnait de ne pas voir entrer. Et bien que cette présentation fût superflue, car Bloch était déjà résolu à persuader aux deux artistes dont il avait parlé de venir chanter à l'œil chez la marquise, dans l'intérêt de leur gloire, à une de ces réceptions où fréquentait l'élite de l'Europe. Il avait même proposé en plus une tragédienne aux yeux purs, belle comme Héra, qui dirait des proses lyriques avec le sens de la beauté plastique. Mais à son nom, Madame de Villeparisis avait refusé, car c'était l'amie de Saint-Loup.
« J'ai de meilleures nouvelles, » me dit-elle à l'oreille.
« Je crois que cela ne bat plus que d'une aile et qu'ils ne tarderont pas à être séparés, malgré un officier qui a joué un rôle abominable dans tout cela, » ajouta-t-elle. Car la famille de Robert commençait à en vouloir à mort à Monsieur de Borodino, qui avait donné la permission pour Bruges sur les instances du coiffeur et l'accusait de favoriser une liaison infâme.
« C'est quelqu'un de très mal !»
me dit Madame de Villeparisis, avec l'accent vertueux des Guermantes, même les plus dépravées.
« De très, très mal »
reprit-elle en mettant trois T à trait. On sentait qu'elle ne doutait pas qu'il ne fût entière dans toutes les orgies. Mais comme l'amabilité était chez la marquise l'habitude dominante, son expression de sévérité froncée envers l'horrible capitaine, dont elle dit avec une emphase ironique le nom, le prince de Borodino, en femme pour qui l'Empire ne compte pas, s'acheva en un tendre sourire à mon adresse avec un clignement d'œil mécanique de connivence vague avec moi.
« J'aime beaucoup de Saint-Loup en Bray, » dit Bloch, « quoiqu'il soit un mauvais chien, parce qu'il est extrêmement bien élevé.
J'aime beaucoup, pas lui, mais les personnes extrêmement bien élevées. C'est si rare. »
Continua-t-il, sans se rendre compte, parce qu'il était lui-même très mal élevé, combien ses paroles déplaisaient.
« Je vais vous citer une preuve que je trouve très frappante de sa parfaite éducation. Je l'ai rencontrée une fois avec un jeune homme, comme il allait monter sur son char aux belles jantes, après avoir passé lui-même les courroies splendides à deux chevaux nourris d'avoine et d'orge, et qu'il n'ait pas besoin d'exciter avec le fouet étincelant. Il nous présenta, mais je n'entendis pas le nom du jeune homme, car on n'entend jamais le nom des personnes à qui on vous présente, » ajouta-t-il en riant, parce que c'était une plaisanterie de son père. De Saint-Loup-en-Bray resta simple, ne fit pas de frais exagérés pour le jeune homme, ne parut gêné en aucune façon. Or, par hasard, j'ai appris quelques jours après que le jeune homme était le fils de Sir Rufus Israël.
La fin de cette histoire parut moins choquante que son début, car elle resta incompréhensible pour les personnes présentes. En effet, Sir Rufus Israël, qui semblait à Bloch et à son père un personnage presque royal, devant lequel Saint-Loup devait trembler, était au contraire, aux yeux du milieu guermante, un étranger parvenu, toléré par le monde, et de l'amitié de qui on n'eût pas eu l'idée de s'enorgueillir, bien au contraire.
« Je l'ai appris, » dit Bloch, « par le fondé de pouvoir de Sir Rufus Israël, lequel est un ami de mon père et un homme tout à fait extraordinaire. Ah, un individu absolument curieux !»
ajouta-t-il avec cette énergie affirmative, cet accent d'enthousiasme qu'on n'apporte qu'aux convictions qu'on ne sait pas former soi-même. Bloch s'était montré enchanté de l'idée de connaître M. de Norpois. «
Il eût aimé, disait-il, le faire parler sur l'affaire Dreyfus. Il y a là une mentalité que je connais mal, et ce serait assez piquant de prendre une interview à ce diplomate considérable. »
dit-il d'un ton sarcastique pour ne pas avoir l'air de se juger inférieur à l'ambassadeur.
« Dis-moi, » reprit Bloch en me parlant tout bas, « quelle fortune peut avoir Saint-Loup? Tu comprends bien que, si je te demande cela, je m'en moque comme de l'an 40, mais c'est au point de vue balsacien, tu comprends? Et tu ne sais même pas en quoi c'est placé, s'il a des valeurs françaises, étrangères, des terres. »
Je ne pus le renseigner en rien. Cessant de parler à mi-voix, Bloch demanda très haut la permission d'ouvrir les fenêtres, et sans attendre la réponse, se dirigea vers celle-ci. Madame de Villeparisis dit qu'il était impossible d'ouvrir, qu'elle était enrhumée.
« Ah, si ça doit vous faire du mal, » répondit Bloch déçu, « mais on peut dire qu'il fait chaud. »
Et se mettant à rire, il fit faire à ses regards qui tournèrent autour de l'assistance une quête qui réclamait un appui contre Madame de Villeparisis. Il ne le rencontra pas parmi ces gens bien élevés. Ses yeux allumés, qui n'avaient pu débaucher personne, reprirent avec résignation leur sérieux. Il déclara en matière de défaite «
Il fait au moins 22°C. Cela ne m'étonne pas. Je suis presque en âge. Et je n'ai pas, comme le sage Anténor, fils du fleuve Alphéios, la faculté de me tremper dans l'onde paternelle pour étancher ma sueur, avant de me mettre dans une baignoire polie et de moindre d'une huile parfumée. »
Et avec ce besoin qu'on a d'esquisser à l'usage des autres des théories médicales dont l'application serait favorable à notre propre bien-être,
« Puisque vous croyez que c'est bon pour vous, moi, je crois tout le contraire. C'est justement ce qui vous enrhume. »
Madame de Villeparisis regretta qu'il eût dit cela aussi tout haut, mais n'y attacha pas grande importance quand elle vit que l'archiviste, dont les opinions nationalistes la tenaient pour ainsi dire à la chaîne, se trouvait placée trop loin pour avoir pu entendre. Elle fut plus choquée d'entendre que Bloch, entraîné par le démon de sa mauvaise éducation qui l'avait préalablement rendu aveugle,
lui demandait, en riant à la plaisanterie paternelle, « N'ai-je pas lu de lui une savante étude, où il démontrait pour quelles raisons irréfutables la guerre russo-japonaise devait se terminer par la victoire des Russes et la défaite des Japonais ? Et n'est-il pas un peu gâteux ? Il me semble que c'est lui que j'ai vu viser son siège avant d'aller s'y asseoir, en glissant comme sur des roulettes. »
« Jamais de la vie !
Attendez un instant !» ajouta la marquise. « Je ne sais pas ce qu'il peut faire. » Elle sonna, et quand le domestique fut entré, comme elle ne dissimulait nullement, et même aimait à montrer que son vieil ami passait la plus grande partie de son temps chez elle, « Allez donc dire à monsieur de Norpois de venir. Il est en train de classer des papiers dans mon bureau. Il a dit qu'il viendrait dans 20 minutes, et voilà 1h15 que je l'attends. Il vous parlera de l'affaire Dreyfus, de tout ce que vous voudrez, » dit-elle d'un ton boudeur à Bloch. « Il n'approuve pas beaucoup ce qui se passe. » Car M. de Norpois était mal avec le ministère actuel, et Mme de Villeparisis, bien qu'il ne se fût pas permis de lui amener des personnes du gouvernement, elle gardait tout de même sa hauteur de dame de la grande aristocratie et restait en dehors et au-dessus des relations qu'il était obligé de cultiver. Était tenue par lui au courant de ce qui se passait. De même, ces hommes politiques du régime n'auraient pas osé demander à M. de Norpois de les présenter à Mme de Villeparisis. Mais plusieurs étaient allés le chercher chez elle à la campagne, quand ils avaient eu besoin de son concours dans des circonstances graves. On savait l'adresse, on allait au château, on ne voyait pas la châtelaine. Mais au dîner, elle disait « Monsieur, je sais qu'on est venu vous déranger. Les affaires vont-elles mieux ?»«
Vous n'êtes pas trop pressé ?»
demanda Madame de Villeparisis à Bloch.
« Non, non, je voulais partir parce que je ne suis pas très bien. Il est même question que je fasse une cure à Vichy pour ma vésicule biliaire. »
dit-il en articulant ces mots avec une ironie satanique.
« Tiens, mais justement, mon petit-neveu Châtellerault doit y aller. Vous devriez arranger cela ensemble. Est-ce qu'il est encore là ?
Il est gentil, vous savez, » dit Madame de Villeparisis, de bonne foi peut-être, et pensant que des gens qu'elle connaissait, tous deux, n'avaient aucune relation de ne pas se lier.
« Oh, je ne sais si ça lui plairait, je ne le connais qu'à peine. Il est là-bas, plus loin, »
dit Bloch, confus et ravi. Le maître d'hôtel n'avait pas dû exécuter d'une façon complète la commission dont il venait d'être chargé par M. de Norpois. Car celui-ci, pour faire croire qu'il arrivait du dehors et n'avait pas encore vu la maîtresse de la maison, prit au hasard un chapeau dans l'antichambre et vint baiser cérémonieusement la main de Madame de Villeparisis, en lui demandant de ses nouvelles avec le même intérêt qu'on manifeste après une longue absence. Il ignorait que la marquise de Villeparisis avait préalablement ôté toute vraisemblance à cette comédie, à laquelle elle coupa court d'ailleurs, en emmenant M. de Norpois et Bloch dans un salon voisin. Bloch, qui avait vu toutes les amabilités qu'on faisait à celui qu'il ne savait pas encore être M. de Norpois, et les saluts compassés, gracieux et profonds, par lesquels l'ambassadeur y répondait, Bloch se sentait inférieur à tout ce cérémonial. Et, vexé de penser qu'il ne s'adresserait jamais à lui, m'avait dit, pour avoir l'air à l'aise, « Qu'est-ce que c'est, cette espèce d'imbécile ?» Peut-être, du reste, toutes les salutations de M. de Norpois choquant ce qu'il y avait de meilleur en Bloch. La franchise plus directe d'un milieu moderne, est-ce en partie sincèrement qu'il les trouvait ridicules ? En tout cas, elles cessèrent de le lui paraître et même l'enchantèrent dès la seconde où ce fut lui, Bloch, qui se trouva en être l'objet. « Monsieur l'ambassadeur, dit Madame de Villeparisis, je voudrais vous faire connaître monsieur, monsieur Bloch, monsieur le marquis de Norpois. » Elle tenait, malgré la façon dont elle rudoyait monsieur de Norpois, à lui dire « monsieur l'ambassadeur », par savoir-vivre, par considération exagérée du rang d'ambassadeur, considération que le marquis lui avait inculquée, et enfin pour appliquer ses manières moins familières, plus cérémonieuses, à l'égard d'un certain homme, lesquels, dans le salon d'une femme distinguée, tranchante avec la liberté dont elle use avec ses autres habitués, désignent aussitôt son amant.